je vous demande quelle céréale est la plus cultivée au monde, vous me répondez, allez, j'aime bien faire animateur de jeu radiophonique. Je vous laisse un petit instant, vous pensez évidemment d'abord au blé, puis... Ah, vous révisez votre jugement en pensant à l'Asie, à l'Afrique, vous me dites, ah, peut-être que le riz, compte tenu de la population asiatique, à moins que le sorgho, eh bien, voilà, vous vous plantez sur toute la ligne. La céréale la plus cultivée au monde, c'est le maïs. Or, le maïs que nous connaissons est une plante évidemment domestiquée, mais qui n'a pas, ou qui n'avait pas, de version sauvage. Nous partons donc avec vous, Cécile, en quête de ce mystérieux maïs sauvage.
Oui, effectivement. Alors le maïs, on sait d'où il vient puisqu'il a été rapporté par Christophe Colomb en 1493 de Cuba. Hein. C'est d'ailleurs son nom est d'origine cubaine. En revanche, effectivement, comme vous le dites, on a cherché longtemps quelle était la plante sauvage, quelle plante sauvage était son ancêtre puisqu'on savait que c'était une plante domestiquée, parce que rien ne lui ressemblait véritablement au Mexique, en Amérique du Sud, qui pouvait correspondre. Il y en a une qui a été décrite en 1832 par un botaniste allemand et qu'on appelle la théosinte, qui était un possible candidat, mais on a mis très très longtemps à confirmer son lien avec le maïs. D'ailleurs, ça a été confirmé véritablement, il y a eu consensus qu'à partir des années 1980, donc ça a mis un certain temps. Alors pourquoi ? Parce que en fait, ces deux plantes sont extrêmement différentes. Alors vous savez que le maïs est une plante monoïque, c'est-à-dire qu'elle porte les fleurs mâles et femelles sur le même pied. Alors dans les deux cas, de la théosinte et du maïs, c'est le cas. Sauf que la théosinte, elle a une forme buissonnante, donc pas du tout l'aspect du maïs, qui a une tige vraiment principale. Elle est terminée par une petite inflorescence en haut, qui sont les fleurs mâles, qu'on reconnaît aussi sur le maïs. Par contre, les fleurs femelles sont beaucoup plus petites, celles qui vont donner les épis hein, à terme, et beaucoup plus nombreuses sur les multiples tiges. Et une de ces caractéristiques de ces épis de théosinte, c'est qu'ils sont très durs, ils sont protégés par une feuille modifiée qu'on appelle le glume et qui est extrêmement dur. Il est dur parce que à maturité, les grains tombent au sol et sont transportés par les animaux, ce qui fait qu'ils sont dispersés. Ils sont dispersés par zoochorie, c'est ce qu'on appelle la dispersion par les animaux. Donc, ils sont consommés et ce glume permet de résister aux enzymes digestives des animaux. Or, le maïs, pour le maïs moderne, les grains ne tombent pas spontanément. En fait, c'est ce qui a fait dire d'ailleurs au généticien qui a étudié le lien entre les deux espèces, enfin les deux sous-espèces, que c'était une monstruosité d'origine humaine, puisque en fait c'est une plante qui peut plus tellement se reproduire sans l'intervention de l'homme. Donc Oui,
du coup, comment a été fait ? Parce que c'est effectivement, quand on regarde, on va vous mettre des photos sur le fil Twitter, quand on regarde la théosinte, on ne pense pas immédiatement au maïs, hein, les plantes sont assez éloignées. Comment a été fait le rapprochement et comment est-ce qu'on a fini par remonter finalement cette trace phylogénétique ?
Alors, à la fin du 19e, on s'aperçoit, c'est un agronome mexicain qui s'aperçoit qu'elle est interfertile avec le maïs, hein, déjà. Donc ça, c'est la première étape. Et après, il faut attendre les débuts de la génétique, hein, les années 30, hein, 1930, hein, pour que donc, le fameux généticien George Biddle observe que les chromosomes sont similaires entre les deux espèces, hein, et surtout que les hybrides sont interfertiles, hein, ce qui est généralement un des caractéristiques pour démontrer que ça fait que deux plantes, enfin, deux êtres vivants font partie de la même espèce, quoi. Voilà. Mais ça a été encore contesté et c'est après, dans les années 70, qu'on arrive à identifier que quatre, toujours le même chercheur d'ailleurs, arrive à identifier que quatre ou cinq gènes seulement contrôlent les différences morphologiques entre les deux parents, ce qui fait que ça explique plus ou moins pourquoi elle peut se modifier aussi facilement. Et enfin, ça a été confirmé dans les années 80 par John Dobley, encore un généticien américain. Donc la théosinte, maintenant, c'est acquis, et l'ancêtre direct du maïs, et on lui a donné un nom de sous-espèce, donc Parviglumis. Donc c'est Zea maïs Parviglumis, c'est la sous-espèce qui fait référence au glume, justement à cette espèce d'enveloppe très dure qui enveloppe le grain.
Et du coup, la question qui se pose, c'est comment les premiers cultivateurs, donc les civilisations précolombiennes, puisque il faut rappeler que le maïs est vraiment au centre, hein, c'est vraiment la plante qui a permis le développement de ces empires aztèques, toltèques, etc. Comment est-ce qu'ils sont passés de cette théosinte au maïs domestiqué et humano-dépendant?
Ben, en fait, ça se passe un peu partout pareil, comme toute la transition avec le néolithique, c'est ce qui se passe un peu dans le croissant fertile pour l'Occident avec le blé. C'est-à-dire que petit à petit, alors ça met un certain temps, mais avec le maïs, comme il se modifie relativement vite, ça met moins de temps en Amérique du Sud. C'est des petites communautés en fait qui vont sélectionner petit à petit des plants avec des caractéristiques les plus avantageuses pour eux, c'est-à-dire que des plants dont les graines sont peu protégées, donc toujours le fameux glume. Des épis qui produisent de plus en plus de rangées de grains, de rangées des grains plus importants, et un nombre de branches qui va être réduit. En revanche, ils vont conserver notamment ce qu'on appelle les feuilles de balle, vous savez, qui enveloppent l'épi et en fait qui a un avantage encore aujourd'hui puisqu'ils protègent des attaques des oiseaux, des insectes, enfin relativement. Donc ça passe assez vite hein, puisque donc la génétique, la chronologie par la génétique a démontré que, estime la domestication du maïs à 9000 ans à peu près, et ça a été confirmé ensuite par des fouilles. On a trouvé des restes de maïs, c'est-à-dire les phytolithes, vous savez, les concrétions de silice qui restent dans les céréales, qui sont datés d'à peu près, enfin, c'est pas eux qui sont datés, c'est les outils, hein, d'à peu près 8700 ans. C'est à peu près contemporain, à 1000 ans près des débuts de la néolithisation dans le Proche-Orient.
Voilà. Je renvoie nos auditrices et nos auditeurs à une émission passionnante qu'on avait consacrée précisément aux questions de domestication animale ou végétale et de voir comment, effectivement, depuis le néolithique, les sociétés humaines ont été absolument forgées par les espèces qu'elles ont réussi à domestiquer. C'est une histoire totalement passionnante. Je vous laisse poursuivre. Un mot peut-être pour conclure, Cécile, qui est assez intéressant dans cette histoire, c'est la pélagre italienne. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire? Parce que se nourrir de maïs, en fait, provoque des carences qui peuvent être assez graves et dont sont partiellement protégées justement les populations sud-américaines et latino-américaines.
Oui, tout à fait. C'est quand le maïs a été importé en Italie notamment, d'où l'histoire du nom de la pélagre. Il a provoqué des maladies qui est devenue presque endémique dans le nord de l'Italie. C'est une carence en vitamine B3. C'est l'ancienne vitamine PP qui est due à une substance qui s'appelle l'antiniacine et qui rend utilisable justement cette vitamine qui est la niacine. Donc, et ça provoque effectivement des problèmes de peau jusqu'à des problèmes du système nerveux qui mènent jusqu'à la démence. Vraiment, c'est assez catastrophique. Alors, les populations, les civilisations, les Olmèques, les Toltèques, etc., eux n'avaient pas ce problème, tout simplement parce que, enfin, tout simplement, mais comment ils en sont arrivés à cette conclusion et comment ils sont arrivés à cette préparation? Ils préparaient les galettes de maïs, donc les fameuses tortillas, à partir de grains bouillis dans une solution additionnée de chaux, ce qui rendait la solution basique. Et c'est l'alcalinisation détruit justement l'antiniacine. Alors ça, c'est toujours assez extraordinaire de voir comment on a pu spontanément, empiriquement, en fait, arriver à éviter ce problème. Voilà, c'est mystère. Voilà,
grâce à vous, Cécile, plus personne ne pourra désormais manger du pop-corn de la même façon.